France Inter.
Merci Flore. Le prochain flash dans une heure à 17h sur France Inter. La rencontre avec l'inconscient est une aventure. On vous emmène cette semaine avec Clotilde Le Guil. Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve pour poursuivre ensemble notre voyage à travers l'inconscient, depuis les rêves, les cauchemars et aussi les symptômes. Consentir à parler de ces symptômes en analyse produit un effet inattendu. Lorsque ce qui avait été voué au silence, ce qui était resté bâillonné en nous, ce que nous ne savions même pas que nous pouvions dire, ressurgit à travers la parole, cela produit des effets de métamorphose subjective, comme si s'opérait une véritable catharsis. Freud a parlé de méthode cathartique pour rendre compte de l'expérience de parole qu'est une analyse. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de catharsis et aussi de consentement. Et je vais vous en parler en vous proposant de suivre avec moi une femme étrange. Une femme qui, d'abord, ne veut rien d'autre que fuir et qui, par l'effet d'une rencontre, consent à affronter son symptôme. Pas à pas, nous allons cheminer à ses côtés. Marnie est une femme insaisissable, qui semble indifférente à tout le monde. Nous allons suivre cette belle indifférente, qui ne sait pas qu'en fuyant l'autre, c'est elle-même qu'elle fuit. Nous allons suivre celle qui s'est perdue dans son symptôme, celle qui ne peut aimer personne, celle qui se fait disparaître et nous allons nous demander pourquoi. Qu'est-il arrivé à Marnie ? Nous allons la suivre, en remontant le courant de son histoire, jusqu'à la cause première de son symptôme. Nous allons explorer le chemin qui l'a conduit à la catharsis comme expérience de parole libératoire. Car la catharsis suppose aussi un consentement à l'association libre, un consentement à dire, pour tenter de retrouver ce que Lacan appelait le chapitre censuré de mon histoire. Car pour saisir l'énigme de la vie amoureuse, ses impasses, il faut quelquefois en passer par le déchiffrement de son symptôme. Il faut quelquefois en passer par la réminiscence du trauma. Il faut quelquefois en passer par la catharsis. Nous allons avancer avec Marnie en direction du déchiffrement du symptôme, de la réminiscence du trauma et de la catharsis. De pouvoir dire ce qui était resté coincé quelque part et qui n'était jamais passé par sa gorge va transformer la jeune femme jusque-là assujettie à son passé. Nous allons avancer ensemble avec Freud et avec Hitchcock au cœur de cette expérience de la catharsis. Après avoir partagé avec vous cette élaboration sur le consentement, je répondrai aux questions que m'ont adressées celles et ceux qui ont déjà écouté ce podcast, disponible dans l'application Radio France et sur toutes les plateformes d'écoute.
L'inconscient, avec Clotilde Le Guil, sur France Inter.
Continuez, je vous écoute toujours.
Savez-vous pourquoi Freud, en 1909, a parlé de traitement cathartique à propos des symptômes hystériques ? Il faut prendre la mesure du fait que Freud, qui était d'abord médecin, a rompu avec l'approche purement médicale du symptôme pour découvrir une autre cause au désordre existentiel dont les symptômes hystériques témoignent. Du point de vue médical, un symptôme renvoie à un désordre physiologique. Mais le symptôme, du point de vue de la psychanalyse, est tout autre chose. C'est aussi un signe, un effet de quelque chose qui ne va pas, de quelque chose qui cloche,
mais dont la cause est psychique. Cette approche du symptôme, Freud l'a découverte en s'intéressant aux symptômes des névrosés. Il est le premier à avoir fait l'hypothèse que les symptômes des hystériques, les symptômes par exemple comme l'amnésie, les troubles de la mémoire, la dépression, le dégoût, les paralysies, sans cause somatique, les crises, ces symptômes témoignaient d'un conflit psychique et non pas d'une lésion cérébrale ou même d'une simulation intentionnelle. Alors la catharsis est un mot grec que vous trouvez chez Aristote et qui renvoie à l'effet produit par le théâtre tragique sur les passions des spectateurs. D'assister à une tragédie de Sophocle par exemple, ou de Ripide, permet de suivre le sort du héros et d'en éprouver de la crainte et de la pitié. Tout se passe comme si à travers lui, nous vivions des passions, des émois, des émotions que nous n'aurions jamais vécu ou revécu sinon.
Cela est la vieille terre d'Argos tant aimée, le clos de la Vierge harcelée par un temps, la fille d'Inachos. Oreste, cette place où nous sommes est celle d'Apollon, le dieu tueur de loups.
La catharsis, c'est ce phénomène qui opère en nous comme une purification. Ces passions que nous éprouvons nous libèrent. Le spectacle tragique nous civilise et nous prémunit de ce que les Grecs nommaient l'hubris, la démesure. Eh bien, dans la rencontre avec un analyste, le patient peut lui aussi, en parlant, en disant ce qu'il n'avait jamais dit, se trouver débordé de passion, sentir les larmes lui montaient aux yeux là où il ne s'y attendait pas du tout et consentir enfin à éprouver ses affects qui étaient restés jusque-là coincés en lui. Il se purge aussi de ses passions. Il ne redoute plus de dire et en disant, il se détache de ce qui l'affectait en silence. Freud découvre que la cure de parole, « talking cure », disait aussi une de ses premières patientes du nom de Anna O, produit des effets sur les symptômes. De découvrir le sens d'un symptôme convertit le symptôme en autre chose, en un récit sur ce qui n'avait pu se formuler. Cette catharsis par la parole permet à Freud de découvrir que les symptômes se rattachent à une action traumatique. Mais cette action traumatique n'est pas parvenue jusqu'à la conscience. Freud dit ainsi en 1915, dans son introduction à la psychanalyse, qu'un symptôme se forme à titre de substitution à la place de quelque chose qui n'a pas réussi à se manifester au dehors. Certains processus psychiques, écrit-il, n'ayant pas pu se développer normalement, de façon à arriver jusqu'à la conscience, ont donné lieu à un symptôme névrotique. Certains événements sont à l'origine du symptôme, lui ont donné naissance. Et le symptôme lui-même sert un but, c'est-à-dire produit une forme de satisfaction, comme si le névrosé se sentait protégé du réel, de par son symptôme. La découverte de Freud est qu'en empruntant le chemin de la parole, celui de l'association libre, conduisant à lever le refoulement et à parler sans savoir ce qu'elles disent, les patientes souffrant d'hystérie parviennent à remonter jusqu'à l'action traumatique qui est la cause du symptôme. Entrons alors dans l'histoire de Marnie, dans l'histoire de cette femme qui disparaît. Marnie cherche à échapper à l'autre. Elle cherche même à tromper l'autre, à effacer les traces de son passage, à toujours brouiller les pistes. En changeant de ville, en changeant de nom, en changeant de couleur de cheveux, elle se rend introuvable. Mais cette fuite de l'autre est aussi une fuite d'elle-même, une fuite de son histoire, un effort désespéré pour échapper à ce qui lui est arrivé une fois. En quittant sans cesse la scène de l'autre, elle ne sait pas qu'elle met un masque devant ses propres yeux pour ne pas voir qu'elle se fuit elle-même. En partant en quête d'un éternel recommencement de sa vie, Marnie ignore les causes qui la déterminent. Elle pâtit d'un destin qui prend sa source dans une cause mystérieuse et méconnue d'elle-même. Qui est Marnie ?
Vous le savez qui je suis. Je suis Mickaël le voleur. Je suis une menteuse, une voleuse.
Elle ne le sait pas elle-même.
À la mort de mon mari, survenue d'un seul coup en novembre dernier, je ne suis pas restée démunie, mais comme je me sentais très seule, j'ai décidé de travailler pour m'occuper.
Que fuit-elle ? Elle n'en a aucune idée. Ce qui est certain, c'est qu'elle passe sa vie à tromper l'autre et à se tromper elle-même. Elle passe sa vie à rejouer sans cesse la même fuite, dès qu'un véritable lien à l'autre se profile dans son existence. Toute sa conduite est soumise à une loi qui est celle de la fuite. Cette fuite est comme privée de sens pour elle-même et pour l'autre, car elle ne veut rien savoir de son histoire. Elle ne consent pas à interroger ce qui lui arrive. Elle aussi, comme Lux, dont je vous ai parlé dans l'épisode sur le premier consentement, se précipite dans une forme d'acting out. Marnie veut tout oublier du passé. Mais cela ne marche pas comme ça. Il ne suffit pas de fuir pour se débarrasser de son histoire. Car la vérité finit toujours par vous rattraper. Et c'est ce qui arrive à Marnie. Le chapitre censuré de son histoire se rappelle à elle quelquefois, sans qu'elle le veuille, sous la forme d'une réminiscence traumatique.
Les couleurs, je veux plus de couleurs.
Et quelles couleurs ?
Dès qu'elle aperçoit la couleur rouge, elle est prise d'une terreur inexpliquée. Elle se fige, son regard est comme hypnotisé, elle est paralysée par l'angoisse. Ce symptôme phobique, cette terreur devant la couleur rouge, vient commémorer quelque chose que Marnie voudrait pouvoir effacer.
Voyons, qu'est-ce que ça veut dire, ces couleurs qui vous inquiètent ?
Des couleurs ?
Vous sembliez vraiment terrifiée par certaines couleurs.
Non. Non, ce qui me terrifiait, c'était le tonnerre et les éclairs.
C'est drôle, je ne vous aurais pas prise pour une femme qui puisse être terrifiée par quoi que ce soit.
Cette jeune femme, vous vous en souvenez maintenant certainement, elle vous revient en mémoire. Je suis sûre que vous la revoyez, que ses traits se dessinent là devant vous. Vous revoyez ses yeux écarquillés lorsqu'elle aperçoit la couleur rouge sur la tapisserie du mur ou dans le bouquet de glaïeuls du bureau. C'est une femme qui semble froide et inaccessible et qui pourtant a une faille, la phobie du rouge. Son prénom, Marnie, sonne comme un diminutif qu'on donnerait à une petite fille. Si elle se présente comme une femme assurée et déterminée, sans inhibition et détachée de tout et de tous, elle est en réalité une petite fille, restée fixée à une scène traumatique de son enfance. Marnie n'existe pas vraiment au présent. Elle ne peut avoir aucun projet dans le futur. Elle est restée figée dans le passé de son enfance, bien que cela ne se voie absolument pas. Cette jeune femme, vous vous en souvenez maintenant certainement. Elle vous revient en mémoire. Je suis sûre que vous la revoyez, que ses traits se dessinent là devant vous. Vous revoyez ses yeux écarquillés, lorsqu'elle aperçoit la couleur rouge sur la tapisserie du mur ou dans le bouquet de glaïeuls du bureau. France Inter, l'inconscient, cette semaine avec Clotilde Le Guild. Ce que Freud dit des hystériques, dans son introduction à la psychanalyse, qu'elles nous laissent l'impression d'être, pour ainsi dire, fixées à un certain fragment de leur passé, de ne pas pouvoir s'en dégager, et d'être par conséquent étrangères au présent et au futur. Cela s'applique à merveille à notre héroïne. C'est justement ce qui donne à Marnie cette force au regard des autres et qui cause aussi sa fragilité. Indifférente aux autres, elle est en vérité happée par un passé qui la hante et qu'elle veut taire. Assujettie à ce passé auquel elle croit pouvoir tourner le dos. La jeune femme blonde, jouée par Tippi Hedren dans le film d'Alfred Hitchcock de 1964, « Pas de printemps pour Marnie », est un être qui ne veut plus jamais avoir à se remémorer ce qui a eu lieu. On la découvre de dos, sur un quai de gare, un petit sac à main serré sous son bras. Toute sa vie est ainsi résumée par ce premier plan. Filmée de dos dans son tailleur ajusté, elle nous échappe déjà. Son visage reste inaccessible à l'autre. Elle change de couleur de cheveux pour disparaître aux yeux de ses employeurs qui lui ont fait confiance. Elle est accrochée à ce petit sac qui contient la somme d'argent qu'elle ne cesse de dérober à chacun avant de s'enfuir. Marnie, c'est une silhouette, une démarche. Un chignon bien serré et surtout un silence. Silence sur son être. Drôle de femme. Seule, belle, fuyante. Retournant immanquablement voir sa mère qui l'accueille avec détachement et irritation. Toujours avec dédain même, sans qu'on sache pourquoi la mère est si dure avec elle. La mère s'occupe sous ses yeux d'une petite fille de 6 ans pour laquelle elle semble éprouver plus d'affection que pour sa vraie fille qui revient la voir toujours avec de l'argent pour elle. La mère ne lui accorde pas un regard. Elle a toujours autre chose à faire, des cookies par exemple pour la petite. Et Marnie ne comprend pas. Elle reste là à attendre un signe d'amour qui jamais ne vient. De la rencontre avec l'autre, en revanche, Marnie ne semble rien attendre. Là, Marnie n'a rien d'une victime. Glaciale avec les hommes, se faire embaucher comme secrétaire, gagner la confiance de son patron et de ses collègues, puis disparaître un jour avec la caisse de la société et changer de ville. Elle ne se fie à personne et ne consent pas au pacte de parole. Le seul point fixe de sa vie, c'est sa mère. Sa pauvre mère qui boite et qui a toujours mal à la cuisse lorsque Marnie vient déposer son visage sur ses genoux pour recueillir une caresse.
Pourquoi ne m'aimes-tu pas, maman? Je me suis souvent posé la question.
Marnie semble maudite sans qu'on sache pourquoi. Toute sa vie est occupée à trouver du travail, voler, disparaître, puis recommencer ailleurs. Cela ne cesse pas et pourrait continuer pendant longtemps. Mais au cours de cette répétition du même scénario, l'inattendu se produit pourtant. Une rencontre, qu'André Breton aurait dit capitale. Une rencontre avec un homme qui tombe amoureux d'elle et qui en fait sa Nadja. Une rencontre avec un homme qui n'a pas peur de ne pas la comprendre.
Oh mon Dieu, Marc, si vous me laissiez m'en aller, je pense que jamais plus...
Ah, inutile, je vous garde, Marnie. Il faut que quelqu'un s'occupe de vous et vous aide. Je ne peux pas vous laisser partir. Si je vous relâchais, je serais juridiquement et moralement responsable.
Mais alors...
Marnie. Oui, ça vous va bien.
Il lui en fallait un comme ça, qui ne recule pas devant son désir, à qui elle ne fasse pas peur. Le riche héritier de cette famille industrielle, Marc, qui est joué par Sean Connery, tombe amoureux de Marnie et de son symptôme. Il ne s'intéresse pas seulement à la belle image, il s'intéresse à ses symptômes comme à un mystère. Il croit finalement que la kleptomanie de Marnie, sa phobie de la couleur rouge, ont une signification secrète et même un but. Il s'intéresse à ce qui dépasse Marnie, à ce qui peut surgir comme par hasard et la rendre étrangère à elle-même. La peur des glaïeuls, la terreur de l'orage. Qu'est-ce qui se cache derrière cette conduite affolée? Pourquoi Marnie est-elle prise d'une crise de panique inextinguible lorsqu'elle entend le tonnerre gronder? Où est-elle lorsqu'elle ne répond plus à son nom? Marc ne la juge pas, bien qu'il l'ait attrapé la main dans le sac alors qu'elle s'apprêtait à dérober le contenu du coffre-fort de l'entreprise paternelle. Il admire même le talent avec lequel Marnie parvient toujours à ouvrir les coffres-forts des autres. Mais le coffre-fort qu'elle est pour elle-même, celui-là reste fermé à double tour. Cela, il le voit aussi. Car Marc croit dans l'inconscient et dans l'interprétation. C'est ce coffre-là que Marc a envie d'ouvrir, celui de l'inconscient de Marnie. Marc épouse Marnie, qui y consent tout en étant toujours un peu ailleurs. Il lit des ouvrages de psychopathologie sur les symptômes et les perversions. Il a envie de déchiffrer Marnie, en écoutant ses rêves, ses cauchemars.
Dis Marc, tu te prends pour Freud ?
Il lui fait répéter au réveil ce qu'elle a dit dans son sommeil. Il la questionne, la fait associer librement.
Alors maintenant donne-moi un mot et je te donnerai une association, quelque chose du genre aiguille, épingle. Quand l'homme se marie, les ennuis commencent. Tu es prêt ?
Dis Marc, tu te prends pour Freud ou quoi ? Lui dit-elle un jour, ayant deviné son désir de la psychanalyser, elle. Marc et Hitchcock avec lui, ont compris la découverte de Freud sur le symptôme. S'il y a symptôme, c'est aussi qu'il y a eu une expérience traumatique qui a laissé sa signature sur l'être, comme une marque au fer rouge. Le traumatisme psychique, c'est ce qui a fait effraction dans la vie d'un sujet, ce qui est venu forcer quelque chose en son corps, ce qu'il a laissé dans la détresse. Le trauma, c'est aussi l'ineffaçable. C'est ce qui se fait connaître via le symptôme à travers lequel le sujet ne se reconnaît plus. C'est donc à la détresse de Marnie que Marc s'intéresse. Que lui est-il arrivé? Comme Freud, il fait l'hypothèse qu'elle sait mieux que tout autre ce dont elle souffre, mais qu'elle n'a pas accès à ce savoir. Comme Freud, il saisit que l'hystérique souffre de réminiscence et que ses symptômes ont un sens et un but. Alors, parce qu'il l'aime, il veut faire le chemin avec elle, celui qui lui permettra de retrouver qui est Marnie, de retrouver celle que Marnie elle-même a perdue. Mais il va falloir que tombe un mur entre Marnie et son histoire. Pour qu'elle puisse rejoindre le monde de la vie, il va falloir qu'elle consente à ne plus fuir. Le problème de Marnie, c'est que rien ne l'arrête. Elle continue, en dépit de l'amour de Marc, à se dérober. Marc aurait pu se lasser de cette belle indifférente, dont le rapport à la parole est comme miné par le mensonge. Il aurait pu la mépriser, la traiter comme une folle, une désaxée, une timbrée, une givrée. Mais non. Marc n'a pas peur de la folie de Marnie. Et il croit en elle. Il croit en cette femme, c'est-à-dire qu'il croit à son symptôme. Alors il poursuit l'aventure avec elle. Il mène son enquête. Entre détective et psychanalyste, il cherche la vérité. Pas seulement la vérité sur Marnie, mais la vérité de Marnie. Quelquefois, Marnie semble heureuse, vraiment heureuse. C'est lorsqu'elle monte à cheval. Et cela, Marc l'a compris. Alors il lui offre un cheval avec lequel elle peut s'échapper le temps de balade en forêt dans l'immense propriété familiale du père de Marc. Mais voilà qu'une fois, Marnie se retrouve par hasard prise dans une chasse à cours ayant lieu dans la forêt domaniale. Vêtue de rouge, les cavaliers qui sonnent le cor de chasse se détachent par leurs silhouettes colorées au milieu de la forêt. Marnie, pourtant excellente cavalière, sent monter en elle l'angoisse. La vue du rouge lui fait perdre toute assise. Elle panique, s'affole, comme si elle devenait elle-même une bête traquée. Et la voilà qui fuit toute seule à travers bois sur son cheval au galop. Elle ne sait où elle fuit, mais elle quitte les chemins balisés pour s'éloigner le plus vite possible de l'objet de sa phobie. Son cheval s'emballe avec elle. Il galope à toute allure, si bien que Marnie en perd totalement le contrôle. Elle fuit, comme si elle était devenue un animal traqué par la couleur qui la terrorise. Devenu fou, le cheval poursuit sa course à travers champs, alors qu'un mur se présente au loin. Marnie, apercevant l'obstacle, tente de ralentir la course, mais rien n'y fait, il est trop tard. Le cheval tente de franchir l'obstacle, mais il chute au pied du mur. Marnie tombe avec lui. C'en est fini de la course folle. C'en est fini aussi de la vie de l'animal, la bête à les pattes brisées. Il faudra que Marnie la batte tant il souffre. Quelque chose a cessé. Hitchcock nous invite à interpréter ce qui arrive à Marnie du point de vue de sa trajectoire subjective depuis cette scène de fuite à cheval. Cette fuite devient une métaphore de la cavalcade de Marnie. La jeune femme rencontre là pour la première fois un point de butée. Elle est arrêtée par un obstacle qu'elle ne peut franchir. Enfin, quelque chose vient faire cesser sa course folle à elle, son refus d'être là, son refus d'aimer qui que ce soit. Ce point de butée est celui du réel auquel elle se heurte. Le réel de son traumatisme, le réel contre lequel, comme le disait Lacan, on finit toujours par se cogner. À partir de cette scène clé, de ce tournant, Marnie change. Marnie capitule. Marnie consent. Marnie cède quelque chose de sa pulsion de mort pour ouvrir enfin les yeux sur son destin. La catharsis va pouvoir se frayer un chemin en elle. Il a fallu qu'elle se cogne contre ce mur et manque de mourir. Il a fallu cet accident pour qu'elle consente enfin à dire, pour qu'elle consente vraiment à faire une rencontre avec un autre, mais aussi à se laisser traverser par cette rencontre qui la conduit vers elle-même. Marc veut faire le chemin avec elle, revenir sur les lieux symboliques de son traumatisme passé. Il s'insurge contre sa méfiance, il ne la laisse plus mentir, il lui parle de ça. Par son amour et son désir de savoir, il gagne enfin sa confiance. Pas seulement sa confiance en lui, mais aussi sa confiance en la parole. Il cherche à la faire accoucher d'une parole enfin authentique sur son être et son histoire. Marc suit Marnie jusque chez sa mère et continue de lui parler lorsque la phobie du rouge ressurgit. Les voilà tous deux là-bas. C'est la première fois que Marnie amène un homme chez sa vieille mère boiteuse. La présence de cet intrus ne change rien au regard toujours méprisant et plein de reproches de la mère. Aux côtés de Marnie, Marc monte les escaliers qui conduisent à la chambre d'enfant. Ils reviennent ensemble sur le lieu du traumatisme. C'est alors qu'en une scène cathartique ultime, dans la maison de sa mère, Marnie revit le traumatisme de son enfance. La scène ressurgit des limbes du passé. Marnie revit cette nuit noire où, prise de panique, alors que sa mère se prostituait encore une fois pour pouvoir élever sa petite fille de 6 ans seule, Marnie se revoit terrorisée par l'orage et demandant sa maman.
Je veux ma maman! C'est pas vous, je veux lâcher mon fils!
Le marin qui passe la nuit avec sa mère sort de la chambre. Il essaie de calmer l'enfant qui hurle et n'entend plus rien. Elle se débat, sa mère aussi. Marnie veut chasser l'homme qui lui prend sa mère et qui n'est pas son père. Marnie le frappe alors avec un tison, cherchant aussi à sauver sa mère. Il ne bouge plus. Du sang coule sur le sol. Rouge. Le tonnerre gronde. Elle a peur. Sa mère la prend dans ses bras. L'homme est mort. Dans les bras de Marc, et pour la première fois, Marnie a pu dire ce qui lui est arrivé. Elle a pu extraire de son propre corps cet élément étranger à sa vie qui avait comme emprisonné son être. Mais que s'est-il passé après ? Marc veut savoir et veut que la mère le lui dise. Maintenant, elle doit le dire. Sa mère a gardé les coupures de journaux. Elle a couvert Marnie en endossant la culpabilité du meurtre commis de façon non intentionnelle par la petite fille. Elles ont vécu toutes deux avec ce mensonge, soudées par ce premier mensonge tout le reste de leur vie. Marnie était restée cet enfant traumatisé par l'acte qu'elle a commis sans le vouloir. Elle était restée liée par cette dette à l'égard de sa mère. Une dette qu'elle ne cessait de vouloir rembourser en dérobant aux autres ce qui lui manquait à elle. Il lui a fallu la rencontre avec un autre qui l'aime et veuille la déchiffrer, mais aussi la rencontre avec un point d'arrêt dans sa course folle pour qu'elle cesse de fuir son trauma. La vérité était restée là en souffrance, quelque part dans l'inconscient de Marnie, et la phobie de la couleur rouge en était la trace commémorative. L'aventure d'une psychanalyse, à la façon de la trajectoire de Marnie, suppose aussi une rencontre et un consentement à dire, un consentement à déchiffrer son destin. L'expérience de parole qui est une analyse commence lorsque je m'aperçois à mes dépens qu'à ne rien vouloir dire et ne rien vouloir savoir de mon symptôme, je finis par me cogner contre le mur du réel. Ose retourner vers ce qui t'angoisse. Ose me parler de ce que tu ne sais pas. Ose savoir qui tu es. Ose dire ce qui n'a jamais jusque-là pu être dit. C'est ce message que Marc a adressé à Marnie. C'est aussi le message qu'un patient reçoit d'un psychanalyste, qu'il entend au-delà de ce qu'il dit. À la fin du film, Marnie est enfin devenue un sujet, sujet de sa propre existence. Elle a franchi ce que Lacan appelait le point d'angoisse en consentant à ouvrir les yeux sur son histoire. La catharsis de Marnie, c'est alors aussi sa métamorphose. « Restez à l'écoute, dans un instant, je répondrai à toutes vos questions. Mais tout de suite, voici Love and Tendresse, d'Eddie De Pretto.
C'était le début des années 20, le début de la fin sûrement. Toi tu courais toujours en vain, ouais tu aimais gagner ton temps. Dans les trop tard de tes 30 ans, ouais tu étais déjà sous l'eau. Et tout l'apnée de ton dedans semblait te lancer des signaux. Tu changeais d'appartement, pour une dixième fois peut-être. Tu te lavais dans les fêtes, entre bureau et tristesse. C'était peut-être ça la vie, t'en étais persuadé aussi. Jusqu'à ce qu'enfin tu découvres qu'il existait l'amour. Un peu de love et de tendresse, finalement c'est ce qu'il nous reste. Que de l'amour, que de beaux gestes, pour essuyer le temps qui blesse. Un peu de love et de tendresse, finalement c'est ce qu'il nous faut. Que de beaux jours, que de beaux gestes, pour attraper le temps qui presse. Fermé sans sentiment, tu as tenu longtemps comme ça, à faire des petits bâtons de sang sur les murs de ton célibat. Puis si tu vois ce que tu rates, tu n'auras pas mon amour mille fois. Alors que le taf s'en relâche, tu pourras y revenir sans moi. Un peu de love et de tendresse, finalement c'est ce qu'il nous reste. Que de l'amour, que de beaux gestes, pour essuyer le temps qui blesse. Un peu de love et de tendresse, finalement c'est ce qu'il nous faut. Que de beaux jours, que de beaux gestes, pour attraper le temps qui presse. Un peu de love et de tendresse.
Un peu de love et de tendresse. Un peu de love et de tendresse. Un peu de love. Un peu de love. Un peu de love et de tendresse. Un peu de love et de tendresse.
Sur France Inter dans l'inconscient, c'est à vous maintenant, je vous écoute.
Bonjour Clotilde, merci pour ce nouvel épisode de l'inconscient que je viens d'écouter. Alors je suis Blanche et je voudrais revenir sur ce que vous dites de Marnie et qui s'étend probablement à tout patient en analyse. Vous dites qu'à un moment, elle consent au pacte de parole. Et que, donc, elle va faire confiance à la parole. Alors, ma première question, c'est que j'aurais bien aimé que vous puissiez nous expliquer davantage en quoi consiste ce pacte de parole. Et ensuite, probablement d'ailleurs en lien avec cette première question, sur la question de faire confiance à la parole. Comment et quand, ou peut-être de quelle manière, est-ce qu'on peut faire confiance à la parole quand on sait à moins d'être écrivain ou poète, je ne sais pas, elle ne permettra pas forcément de traduire avec suffisamment de précision, de justesse, d'exhaustivité ce qu'on ressent, ce qu'on voudrait dire, voilà, qu'elle va peut-être trahir l'intention initiale. Voilà, merci Clotilde pour vos réponses.
Merci Blanche pour cette question à la fois sur le pacte de parole et sur peut-être les limites aussi de la parole et de la recherche de la vérité dans la psychanalyse elle-même. D'abord sur le pacte de parole, oui c'est une formule que j'ai employée. à partir du film d'Hitchcock pour rendre compte d'un certain tournant dans la trajectoire de Marnie. Parce qu'en effet, ce qui est frappant dans le film, c'est qu'on voit que Marnie est d'abord une femme murée dans un certain silence, une femme au fond qui refuse de se confier à l'autre, mais qui refuse aussi de parler d'elle-même. Hein. Une femme qui tourne le dos à quelque chose du rapport à l'autre, une femme qui se méfie. Et c'est aussi une femme, on le découvre donc, qui finalement trompe l'autre et ensuite cherche à disparaître pour ne pas avoir à payer les conséquences de ses actes. Et ce qui est intéressant dans la façon dont Hitchcock a construit son personnage, c'est qu'il nous montre qu'il va falloir en effet qu'elle rencontre un autre, à travers le personnage de Mark, qui est joué par Sean Connery, un autre qui lui parle, qui a envie de lui parler, qui a envie de la connaître, qui a envie de savoir qui elle est, qui s'interroge sur son identité. Il faut qu'elle rencontre cet autre-là pour pouvoir elle-même consentir à ce que j'ai appelé le pacte de parole. C'est-à-dire consentir à faire confiance, tout simplement, à faire confiance à un autre, non pas à tout le monde et à n'importe qui, non pas de façon anonyme, mais à faire confiance à cet autre-là qui lui porte un intérêt très particularisé. Et donc, on voit l'importance de cette rencontre qui a un effet sur le rapport de Marnie à la parole, c'est-à-dire qu'il va ouvrir quelque chose de la possibilité de parler. Ensuite, vous dites, mais finalement, comment est-ce qu'on peut passer avec un autre ce pacte de parole dès lors qu'il y aura toujours finalement de l'indicible, hein, ou vous dites de quelque chose qu'on ne pourra pas traduire, hein. Alors, évidemment, on peut dire que dans la psychanalyse, oui, à certains égards, on passe un pacte de parole, c'est-à-dire que on s'engage parce qu'on croit dans les vertus de la parole. On croit aussi dans la possibilité qu'un autre puisse nous aider en nous entendant, nous aider à saisir ce que nous ne comprenons pas nous-mêmes de ce qui nous arrive dans notre existence, un peu comme ce qui se passe pour Marnie. Cela ne signifie pas pour autant que l'on pourra en effet tout dire et venir totalement à bout finalement, ou au bout plutôt, du mystère, du noyau traumatique. Hein. Il y aura toujours en effet quelque chose qui restera à certains égards indicible. Mais cela ne met pas en cause le pacte de parole. Au fond, ce pacte de parole ne consiste pas à absolument tout dire et à devenir, comme sous une injonction, transparent à soi-même et transparent pour l'autre. Ce pacte de parole, c'est plutôt un pacte qui consiste à essayer de dire ce qu'on ne sait pas soi-même qu'on pouvait dire. C'est comme ça, finalement, que Freud a aussi distingué la pratique de la psychanalyse de la pratique de la confession. Il ne s'agit pas de se confesser et d'avouer pour tout dire, comme s'il fallait avouer ses péchés, mais il s'agit de tenter de dire ce qu'on ne savait pas même que l'on pouvait peut-être dire. Et c'est ce qui fait la nouveauté de la psychanalyse, c'est ce qui fait le caractère inédit de la fonction de la parole en analyse, c'est que finalement, elle dépasse celui qui parle, et plutôt que d'être en deçà de ce qu'il voulait dire, et ben d'une certaine façon, elle est au-delà, pour sa plus grande surprise.
Je m'appelle Emma. Merci beaucoup, Clotilde de Guille, pour ces interventions sur l'inconscient et pour vos références à la littérature et au cinéma qui sont toujours palpitantes. Vous nous avez fait entendre l'importance du déchiffrage du symptôme. Il veut dire quelque chose et satisfait à quelque chose, et comme vous le formulez, il a un sens et un but. Je me demandais si vous pouviez en dire plus sur la question de croire, d'y croire, en l'autre et en son symptôme, dans l'amour. On nous dit en effet que Marc croit en Marnie et croit que son symptôme veut dire quelque chose. Est-ce qu'il n'y a pas aussi croire que l'autre, l'aimé ou l'analyste, sait quelque chose sur nous ? L'amour et l'analyse ne seraient-ils pas alors un consentement, d'un dire oui ou croire au savoir inconscient que l'aîné ou l'analyste peut détenir sur nous. Merci d'avance pour votre réponse.
Merci Emma pour votre remarque, votre analyse aussi sur la question de la croyance et votre question qui au fond devance un point que j'aborderai dans l'épisode qui suivra celui-ci. En effet, qui est l'importance que peut avoir pour un sujet dans son existence le fait de rencontrer à un certain moment un autre, une autre qui croit en sa parole, hein, qui lui dit « je te crois », qui ne cherche pas finalement à mettre en doute ses propos, à les invalider, à les soumettre à la nécessité de la preuve, mais qui dit d'abord « je te crois ». Et effectivement, c'est une condition sine qua non de l'expérience de l'analyse. C'est ce qui était arrivé à une des patientes de Freud, Dora, en 1909, enfin dont Freud rend compte, en tout cas, dans son texte « Fragment d'une analyse d'hystérie » qui est paru en 1909. C'est ce qui est arrivé à Dora quand elle s'est adressée à Freud. Dora, que personne ne croyait, en particulier que son père ne voulait pas croire par rapport à ce dont elle souffrait et à ce qui lui était arrivé. Et finalement, le premier acte analytique de Freud a consisté à la croire. Et la croire ne signifie pas la figer dans une version, une première version de sa souffrance, mais la croire consiste à donner une valeur à sa parole en tant qu'énonciation, en tant qu'elle vient d'elle, en tant que seule elle peut dire quelque chose sur ce qui lui arrive. Donc, ça, c'est en effet une dimension fondamentale du début de l'analyse. Et en ce qui concerne Marnie, ce qui est extraordinaire et ce que Hitchcock a très bien compris, c'est qu'il faut qu'elle rencontre un autre qui croit que ce qui lui arrive, donc ce symptôme phobique, cette kleptomanie, qui croit que ce qui lui arrive ne se réduit pas simplement à un dysfonctionnement ou à un trouble, mais qui croit que ce qui lui arrive a une signification, mais une signification cachée. Et donc qui croit qu'il va pouvoir découvrir le sens caché de ses symptômes. Et c'était la définition, la première définition que Freud donnait de l'interprétation. Interpréter, c'est découvrir un sens caché. Et effectivement, pour pouvoir s'engager dans une analyse, vous avez raison de le souligner, il faut aussi peut-être croire soi-même qu'il y a un sens caché à ce qui nous arrive, qu'il y a quelque chose au fond qui nous échappe dans ce qui ne cesse de se répéter dans notre existence, et que ce quelque chose, on va pouvoir le déchiffrer grâce à la parole et grâce à l'interprétation.
France Inter, l'inconscient. Cette semaine avec Clotilde Le Guild.
Et nous poursuivons nos échanges à l'écoute de vos questions.
Bonjour Madame Le Guild, je m'appelle Marion. J'ai observé que dans vos dernières émissions, les héroïnes sont des femmes et la majorité des cinéastes, si je ne me trompe pas, des films que vous analysez dans les podcasts, sont des hommes. Et je me demande si les hommes seraient plus tenants du discours analytique et les femmes plus objets du discours analytique. Voilà, je vous remercie d'avance pour votre réponse.
Merci Marion pour cette remarque et cette interrogation à laquelle je vais répondre finalement de deux façons différentes. D'abord, le premier film que j'ai choisi d'analyser pour ce nouveau cycle sur le consentement, l'inconscient et le consentement, est un film de Sofia Coppola. Donc justement, Sofia Coppola, c'est une femme. Et donc, ce qui m'a intéressé justement, c'est d'ouvrir un cycle d'interprétation de la question du consentement à partir de ce film de Sofia Coppola, parce qu'il me semble que justement, c'est avec son regard de réalisatrice qu'elle parvient à aborder de façon extrêmement profonde cette expérience de la perte de la virginité et du ravage maternel. Par ailleurs, dans les personnages que j'ai analysés dans le cycle sur le rêve, il y a aussi ce personnage hitchcockien qui est Scotty dans Vertigo, hein, et qui est bien un homme frappé de ce symptôme de vertige qui prend forme au sein aussi d'un état dépressif. Mais votre question, je trouve qu'elle est tout de même très intéressante parce que finalement, elle met en jeu la question de ce que c'est que la psychanalyse. Est-ce que la psychanalyse est un discours théorique, finalement, qui rend les êtres humains objets d'une approche clinique, hein, sur eux-mêmes ? Et ça, peut-être que ça me permet finalement de revenir aux origines de la psychanalyse et justement de rappeler que ça a été le premier pas fait par Freud lorsqu'il a rencontré ses premières patientes hystériques à partir de 1895 avec Joseph Breuer. Justement, Freud a considéré que ces patientes hystériques n'avaient pas à être envisagées comme des cas de la médecine, c'est-à-dire comme, d'une certaine façon, aussi des objets à étudier par la médecine et par la neurologie. Freud a considéré que, finalement, ces patientes hystériques étaient des sujets. Elles n'étaient pas, justement, objets à étudier par le savoir scientifique, mais elles étaient des sujets qui savaient quelque chose de leurs propres symptômes, mais qui devaient en passer, au fond, par la parole pour pouvoir le découvrir. Hein, c'est la première chose, finalement, que note Freud dans ses 5 leçons sur la psychanalyse. Hein, c'est qu'au fond, les hystériques savent beaucoup mieux que le médecin lui-même ce dont elles souffrent. Mais pour le retrouver, eh bien, d'une certaine façon, il faut qu'elles consentent à cette association libre qui leur permettra d'accéder à la dimension inconsciente de la signification de leurs symptômes. Donc, voilà, votre question, elle me permet de préciser cela. C'est qu'en effet, peut-être que la pratique de la psychanalyse est fondée aussi sur le fait de permettre à chacun, hommes, femmes, non-binaires, de permettre à chacun d'être sujet d'un discours qu'ils, elles ou elles peuvent tenir sur leurs souffrances, sur leurs symptômes. Et donc, le psychanalyste n'est pas celui qui va objectiver cette parole, mais au contraire, qui va en faire résonner quelque chose du point de vue de l'inconscient. Et enfin, peut-être pour terminer, ce que je trouve très juste dans ce que vous remarquez, c'est que tout de même, c'est vrai que la question de la sexualité féminine a beaucoup intéressé Freud, a beaucoup intéressé Lacan, et qu'ils en parlent beaucoup tous deux, qu'ils ont beaucoup élaboré et fait avancer la psychanalyse à partir de leurs questionnements, et Freud a même reconnu qu'il butait sur quelque chose qu'il ne comprenait pas, et donc il a parlé de continent noir, un dark continent, et Lacan, quant à lui, a avancé dans une direction consistant à essayer justement de dire quelque chose de cette sexualité féminine qu'il a appelée aussi jouissance, hein, pour rendre compte de son rapport à la fois au désir et au corps. Merci pour vos questions et merci à Marie Le Peintre à la technique, à Juliette L'Orphelin pour le choix de la musique, à Franck Olivard qui récolte vos questions et à Jérôme Boulet à la réalisation. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec David Gourion. D'ici là, vous pouvez d'ores et déjà écouter son podcast sur toutes les plateformes, dans l'application Radio France ou sur notre page internet L'Inconscient sur franceinter.fr et lui laisser des messages par note vocale ou sur notre répondeur au 01 56 40 64 04. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le dimanche 5 novembre pour mon prochain épisode sur le consentement et le gaslighting avec Georges Cucor.